nous sommes avec Dominique Péchard, président de la Ligue des droits et libertés, pour nous entretenir de la question de la surveillance des télécommunications. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors, pour commencer, peut-être nous présenter la Ligue des droits et libertés, qui est tout de même assez connue, mais de façon générale, sa mission.
Bien, la Ligue des droits et libertés est une organisation qui a été fondée au Québec en 1963. Ça fait partie des organisations de défense de droits humains à travers le monde. On défend l'ensemble des droits humains, c'est-à-dire non seulement les libertés civiles, politiques, tout ça, mais les droits économiques et sociaux, le droit à un revenu décent, logement, etc. Et on fait partie de la Fédération internationale des droits de l'homme.
Et donc, vous avez eu un événement la semaine passée, sorti une brochure intitulée « La surveillance de nos communications. Avons-nous vraiment rien à craindre ?» Alors, c'est un thème pas nécessairement connu, et en le parcourant, donc, j'ai découvert l'existence d'une convention sur la cybercriminalité qui a mené à une entente internationale. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu?
Oui, c'est une convention internationale qui a été négociée sous l'initiative du Conseil de l'Europe, mais avec la participation des États-Unis, du Japon, du Canada et de l'Afrique du Sud. Ça a commencé dans les années 90. L'idée, c'était de mettre en œuvre des moyens de surveillance policier, des nouveaux moyens de communication et d'avoir une entente aussi sur le partage de renseignements. C'est une entente qui allait nulle part jusqu'au 11 septembre 2001. Puis là, évidemment, ça donnait une impulsion à la surveillance et l'entente a été ratifiée dans les mois suivants et signé par le Canada également. Alors, les projets de loi que le gouvernement canadien a déposés au mois de juin dernier se situent dans cette lignée-là, c'est-à-dire de donner aux forces policières des pouvoirs et pour obtenir des données sur nos communications. Alors, c'est ça. Il y avait déjà eu précédemment une tentative d'introduire un projet de loi semblable sous les libéraux, mais c'était mort au feuilleton à cause des élections.
Et donc, concrètement, quand on parle de surveillance des télécommunications, qu'est-ce que ça inclut, télécommunications comme concept?
Oui. Bon, alors faut comprendre que c'est très, très large ce qui est couvert. Les données, la loi couvre ce qu'on appelle les données informatiques. Alors, les données informatiques, c'est toute donnée qui peut être traitée par un ordinateur. Et ça s'adresse aux fournisseurs de services de ces communications-là. Donc, évidemment, en premier lieu, on pense à l'Internet, mais aussi ça s'applique aux fournisseurs de communications de téléphone mobile, etc. Alors, tout ce qui peut être traité sous forme d'un ordinateur est une donnée qui est potentiellement saisissable à travers cette loi-là. Alors, il faut comprendre que ces données-là, les forces de l'ordre, le gouvernement présente ça comme une modernisation de la loi qui permet de faire de l'écoute téléphonique. Mais il faut comprendre que les données qui sont visées ici sont beaucoup plus larges que ce qu'on peut avoir par de simple écoute téléphonique. Parce que si on pense à tout ce qu'on communique par Internet, les recherches qu'on fait, on transmet des données financières par Internet, il y a maintenant des données de santé qui sont transmises par Internet. Alors, tout ça fait en sorte que les données potentiellement accessibles sont immenses par rapport à ce que représentait l'écoute téléphonique traditionnelle.
Oui, notamment lors de l'événement de lundi passé de la Ligue des droits, il y avait cet élément qui était dit, c'est-à-dire que c'est pas seulement ce qu'on transmet consciemment par Internet, c'est-à-dire un courriel, un document, mais c'est aussi le fait qu'on peut savoir tout ce qu'on lit, combien de temps on a lu un document, quelles sont ces autres choses qu'on pense pas spontanément, mais qui font cette intrusion dans la vie privée?
Bon, la loi définit différentes catégories de données. Premièrement, les deux projets de loi font deux choses. Premièrement, ils obligent les fournisseurs de services à se doter des moyens de garder un registre sur les données de transmission, c'est-à-dire tous les liens de qui a communiqué avec quoi. Autrement dit, si vous communiquez avec quelqu'un d'autre, si vous allez sur un site Internet, tout ça, ça constitue une donnée de transmission. Ils doivent aussi être capables de préserver le contenu même des transmissions. Et ils doivent aussi être capables de fournir des données de localisation, parce que dans les nouveaux moyens de communication, il y a aussi des moyens de localiser où se trouvent des personnes. On pense au téléphone cellulaire, par exemple. Et ce qui est préoccupant, en plus, particulièrement préoccupant, c'est que les exigences pour qu'ils puissent accaparer ces informations-là sont réduites par rapport à ce qu'on connaît pour l'écoute téléphonique traditionnelle, alors que c'est beaucoup plus intrusif. Par exemple, ils peuvent demander au fournisseur de service les données sur les abonnés, autrement dit, votre nom, votre adresse IP, etc. Bon, c'est des informations qui sont considérées privées selon la loi sur la protection des renseignements personnels. Et ensuite, il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire sur la base de simples soupçons. D'habitude, par exemple, pour l'écoute téléphonique, pour pouvoir pratiquer l'écoute téléphonique, il faut que les forces des policiers aient un motif raisonnable de croire qu'un crime a été commis ou va être commis. Et ils ont besoin d'un mandat judiciaire. Ils doivent démontrer au juge qu'il n'y a pas eu d'autre moyen d'obtenir l'information. Alors, cette exigence-là n'est plus nécessaire maintenant. Sur la base de soupçons, ils peuvent demander à un fournisseur de services de donner l'information sur toutes vos communications. Donc, les recherches que vous avez faites sur Internet, avec les autres personnes avec lesquelles vous avez communiqué, et ainsi de suite. Ce qui peut révéler énormément sur une personne. Ils peuvent ensuite demander, sur simple soupçon, à un fournisseur de services de garder le contenu de vos communications pour une saisie éventuelle. Et finalement, ils peuvent saisir les informations sur la base du motif raisonnable de croire, mais sans avoir à démontrer qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'obtenir l'information qu'ils cherchaient. Donc, c'est un abaissement des critères très marqué pour obtenir beaucoup plus d'informations sur notre vie privée.
Donc, concrètement, une des différences majeures, c'est l'absence de mandat. Donc, est-ce que ça voudrait dire que si ces lois passent, que les services de police pourraient, sans avoir à passer par une quelconque hiérarchie ou un juge, prendre les informations qu'il y a sur un ordinateur privé sans en informer
C'est-à-dire que ça dépend des catégories d'informations. Pour les données sur les abonnés, ils n'ont pas besoin de mandat judiciaire aucun. Pour les données de transmission, ils ont juste besoin du motif raisonnable de soupçonner. Alors, le soupçon, c'est pas un niveau très exigeant en termes légal, donc c'est très facile à obtenir. Et pour ce qui est des données informatiques du contenu, ben là, ils ont besoin d'un mandat judiciaire sur la base du motif raisonnable de croire. Mais préalablement, ils ont plus de sans mandat, ils peuvent demander au fournisseur de conserver toutes vos données. C'est un peu comme si la police allait au poste puis dit ben photocopier toutes les lettres de cette personne au cas où j'en aurais besoin éventuellement. Donc c'est des pouvoirs très étendus. Puis il y a aussi évidemment la possibilité de servir ces données-là pour faire du tracking, c'est-à-dire suivre les déplacements d'une personne, c'est-à-dire faire de la localisation. Et il y a aussi une dernière chose, je dois dire, c'est que ce qui est inquiétant également, c'est que la loi permet que des informations soient saisies sur la base si un juge soupçonne qu'une infraction a été commise. Ces informations sont pertinentes par rapport à une infraction qui a été commise dans un pays étranger. Alors, ça veut dire que quelqu'un pourrait voir des données saisies parce qu'il y a une infraction dans un pays étranger, mais qui n'est pas nécessairement une infraction au Canada. On pense, par exemple, entre autres, à l'avortement.
Donc concrètement, si une personne laisse des traces sur Internet de communication quelconque prouvant qu'elle vient se faire avorter au Canada tandis que c'est illégal dans son pays, elle pourrait être poursuivie au Canada où les données pourraient être transmises?
Mais c'est-à-dire que les données qui pourraient servir à la faire condamner dans son pays à elle pour le Canada pourrait être tenu de collaborer pour fournir ces données-là. Et il y a aussi, ce qui est très préoccupant, c'est qu'on peut penser aussi au domaine de l'activisme politique. En Amérique du Sud, il y a beaucoup de des opposants à des projets de développement et tout ça sont souvent taxés par des régimes comme ceux en Colombie ou au Pérou de terroristes. Donc, sur la base de ça, ils pourraient obtenir des informations sur les communications que ces militants-là dans ces pays-là ont avec des organisations, par exemple, de défense de droits au Canada.
Donc, on comprend qu'il y a une entente internationale. Il y a deux projets de loi, donc C-46 et C-47 au Canada. Puis donc, il y a des éléments de ces lois du Canada qui sont liés à l'entente, comme j'imagine cette partie sur l'internationalité doit être liée à l'entente?
Oui, oui. C'est un des aspects principaux de l'entente sur la cybercriminalité, c'était de permettre le partage de renseignements entre pays.
Est-ce que vous avez connaissance d'autres projets de loi qui touchent aussi à cette entente sur la cybercriminalité, d'autres changements législatifs qui ont déjà eu lieu au Canada ou ailleurs?
Non, au Canada, pour la surveillance des communications, ce sont les seuls projets de loi qui sont à l'ordre du jour, si on peut dire. Alors, ils sont présentement, je peux ajouter, qu'ils sont passés en deuxième lecture. Ils vont être envoyés à des comités pour études. Donc, nous, on a l'intention de sensibiliser la population qui est plutôt au courant de ce genre de ces projets de loi-là et de faire des pressions pour qu'ils soient retirés.
Donc, si on comprend bien l'agenda législatif, ça pourrait être dans les prochains mois, à moins d'élections, qu'il y ait un vote.
Oui, bien, ça peut. C'est le gouvernement qui détermine l'agenda, évidemment. Ça pourrait, à la limite, passer en comité avant Noël, puis ça pourrait éventuellement être adopté en chambre après les vacances, là. Mais ça, on ne peut pas prévoir quelles vont être les priorités du gouvernement.
Puis justement, par rapport à cet agenda-là, quelles ont été les consultations, s'il y en a eu? Quels sont les mécanismes, les possibilités pour la dite société civile de pouvoir intervenir, faire pression sur ce genre de projet-là?
Bien, disons que les seules consultations qui ont eu lieu remontent à peu près 2002-2003, quand le gouvernement a tâté le terrain pour son premier projet de loi allant dans ce sens-là. Là, ça, à l'époque, ça s'appelait accès légal et ensuite accès licite. Ça a été des consultations quasiment secrètes, dans le sens que très peu d'acteurs de la société ont été conviés à participer. La Ligue est allée, mais on était quelques-uns autour de la table. Les informations pas de projet de loi écrit, c'était très vague et à l'époque, les intervenants ont eu une réaction très négative au projet du gouvernement. Mais à partir de là, il n'y a plus eu de consultation. Donc, présentement, ça va juste être débattu en comité parlementaire. Donc, les gens qui vont se faire entendre sont ceux qui vont comparaître devant les comités parlementaires. Puis après ça, ça va aller au Parlement. Donc, nous, on veut un débat public. On veut aussi sensibiliser les députés, parce qu'il faut le dire, les députés, c'est un projet de loi qui, quand on le lit, c'est des amendements au code criminel, c'est très, très difficile, c'est pas évident à comprendre, à moins que vous soyez avocat criminaliste. Donc, les députés, eux autres, à moins de les sensibiliser à ce qu'il y a dans les projets de loi, ils vont voter d'après ce que dit leur parti. Donc, c'est important d'intervenir auprès des députés pour faire valoir qu'on n'est pas d'accord avec les projets de loi.
Puis j'imagine qu'en plus de l'aspect légal compliqué, il y a aussi un aspect technique, puisque la caractéristique même des télécommunications est tellement changeante que c'est pas nécessairement tout le monde qui sait qu'est-ce qu'est une adresse IP, qu'est-ce qu'est une donnée informatique, qu'est-ce que mon texte dans mon ordinateur, ou ben donc mon email, ou ben donc qu'est-ce qui...
Oui, ça c'est l'autre aspect, évidemment, que c'est bien plus compliqué que la traditionnelle conversation téléphonique.
Puis dans le petit fascicule que vous avez fait, qui est très informatif sur le sujet, il y a une petite citation que j'ai bien aimée, qui d'un titre qui dit « Si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre », ce qui est un petit peu le réflexe habituel de personnes qui vont utiliser leur ordinateur pour parler à leur famille, etc. Fait que ce serait quoi, parce qu'on comprend pour les activistes politiques, pour des gens qui ont un agenda vis-à-vis d'un gouvernement quelque part dans le monde, le danger, mais c'est moins évident nécessairement pour tout le monde.
Bien, c'est que les gens, évidemment, quand ils pensent ça, ils ont ils ont à l'esprit ce que eux considèrent une action qui est qu'on peut reprocher, mais disons ce que la police comprend de plus en plus comme quelqu'un, comme un motif de surveiller du monde est de plus en plus large. Par exemple, les gens qui s'opposent à Vancouver, aux Olympiques ou à certains aspects de la manière dont ça se déroule font l'objet maintenant de filatures, d'interventions policières. La définition de qui est constitue une menace à la sécurité nationale est maintenant très large. Donc, toutes sortes de personnes font l'objet de surveillance et les motifs pour surveiller des gens sont de plus en plus larges. Puis les gens, après, se trouvent très surpris. Ils veulent prendre l'avion puis ils se trouvent sur une liste d'interdiction de vol. Et il y a des choses comme ça de plus en plus qui se passent ou interdit de traverser une frontière. Alors, c'est très naïf de penser que parce qu'on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre, c'est pas ce que nous, on a à se reprocher, c'est ce que d'autres nous reprochent.
Et un autre aspect qui est marquant, c'est la différence qu'actuellement il faut un mandat donc pour saisir les données. Donc ça veut aussi dire que puis ça se fait de façon physique. Alors une personne est au courant qu'on va prendre ces informations. Si je comprends les changements qui seraient apportés par les lois C46 et 47, c'est aussi que on pourrait simplement s'adresser à notre fournisseur de services et donc ne pas être au courant. Donc dans le fond, potentiellement les gens pourraient être sous surveillance en n'en ayant aucune idée jamais.
C'est ça, exactement.
Donc c'est quand même on est quand même pas loin de certains récits de science-fiction.
Oui, et ça va devenir de plus en plus préoccupant parce qu'il y a de plus en plus d'objets dans notre environnement qui vont être des puces radiofréquences, qui vont faire que des objets communiquent avec des systèmes informatiques. Et à travers toute cette informatisation de la vie courante, ben, il y a un potentiel énorme de surveillance de ce que font les gens, leurs déplacements, avec qui ils communiquent, etc., ce qu'ils achètent. La nécessité de protection, autrement dit, elle est plus grande. Parce que les moyens intrusifs sont de plus en plus grands, puis au contraire, il y a des moyens intrusifs de plus en plus grands, puis il y a de moins en moins de protection de la vie privée.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, oui.
Oui, j'aimerais juste ajouter que la Ligue organise au mois de janvier, ça va être le vendredi 29 janvier, samedi 30 janvier, un colloque sur toute la question des renseignements personnels de la vie privée. On va avoir comme invité le vendredi Mme Jennifer Stoddart, qui est commissaire à la vie privée du Canada, et on va avoir des conférenciers le samedi qui sont très très intéressants, qui connaissent bien le sujet. Donc, on aimerait bien avoir que les gens qui s'intéressent à ces questions-là, bien, ils sont bienvenus à venir assister au colloque. De toute façon, on va avoir de l'information sur le site de la Ligue des droits et libertés.
Puis aussi, j'imagine il y a d'autres dossiers, notamment sur la question de la surveillance informatique. Il y a aussi la question des dossiers de santé que vous avez touchés et beaucoup d'autres fascicules aussi que vous avez fait.
Oui, ben disons que le prochain bulletin de la Ligue va porter sur ce sujet-là. Et donc, c'est l'ensemble des données personnelles, tant celles que les gouvernements détiennent, comme le dossier de santé que vous avez mentionné, mais aussi ce que font les agences de surveillance internationale, comme la National Security Agency, qui espionne les communications internationales. Donc, ça va être l'ensemble des atteintes à la vie privée dans notre société.
Donc, pour se maintenir au courant, on peut s'inscrire à votre liste, aller sur votre site qui
oui.
est...
Vous pouvez taper « Ligue des droits » dans Google, puis ça vient en tête de liste, mais le site, c'est www.liguedesdroits.ca.
Puis donc, dans la même série de petits fascicules, il y en a sur la création d'une liste noire des passagers aériens au Canada que vous avez mentionné. La loi antiterroriste doit être abrogée sur les certificats de sécurité, les poursuites Boyon, le taser, une arme inoffensive pour l'interrogation, les droits humains pour la liberté, l'égalité et la solidarité. Est-ce que vous savez le nom du prochain? Ah ben la surveillance des télécommunications.
Oui, non, le prochain reste à venir. Alors ces dépliants-là sont disponibles sur le site de la Ligue. Et puis si vous les voulez en format papier, ben vous pouvez vous adresser à la Ligue.
Ben merci beaucoup d'avoir été avec nous et on va suivre le dossier et les appels à la mobilisation qui suivront.
Merci.
أهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم
كل السفن تفوت نتار في الحزن يغرق قلوبنا راضي نكون ضيوف الظلم ببيوتنا والآين قلبت كمان مرة صرنا ضيوف اللي غير مرغوب فينا مكتوب لنا نضلنا راب على أرضنا بعازل وطننا مين يهم مهمنا مطمطي يجرب دمنا حكمنا حكم صهيوني ديمقراطي ديمقراطي للنفس الصهيونية وصهيوني للنفس العربية يعني الممنوع الممنوع للمسموح الممنوع للمسموح لمكروه لي لأنه إن كان كياني محى ومازال يمحي ألواني تاريخ ناس جدادي يغسل دماغ ولادي التوعى حاضر ما يمثلها جنسية زرن بلا ونشرب ميتها طولنا أنه إحنا من الشعب والشعب حسسنا أنه إحنا غربة أنا غريب في بلادي
لوينا
فنانا همسات سفانا إشارات طردانا أهرانا ناسي النجدادنا أسس المباني وإخوانا مازال عمره أساسا وأساس سعر بالمسجد والدير وأخيرها ناس من بلاد غير صرخ لي ترانسفير إحنا شاكينا قوانين هادم حقوقنا كاتم صوتنا داخل خط الأخضر هادم بيوتنا البطالة تهومنا نربى فوق وفوق الرب يقولنا لكن تحيي قلوبنا اللي تحيي جزورنا اللي ينادونا خوانا خوانا
لا لا لا
أنا ما هنت في وطني مأسي شعبي كتبت لقدري العالم لليوم عملنا إسرائيليين وإسرائيل بكرة عملنا فلسطينيين غريب في بلادي
لما الحجر بالإيد 13 شهيد علاء وطننا عماد وطننا أكتوبر الأسود أثبت إنه الإياد بدمنا إذا الكل فيهم وليد تحت الاحتلال كيف مش رامي الماضي برامي حاله كسيف الماضي يعارك سلاح الحاسب ضمنا مي يقتل الصوت المسلح برصاصه الحي ودمعة الأم تصيح أنا أسيل عخط عرب محمد والمسيح يا جبل ما يهزنا ريح انضل رامز القومية وسام الحرية شعلة أجداد دمور الروح الشبابية أنا غريب ببلادي لكن احمد ربني متمسك بتراسي نادوني خاين عربي الداخل 48 ويدك عراسك احنا جزور فلسطين لطول العمر
لوينا روح الغربة احتلت داري قالت للروح حضن اهلك يحمل غالي
لوينا روح اخواتي قالت للروح
منتصب القامات
وصمت العشب فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم